Trouver un emploi compatible avec ses engagements en matière d'écologie. De plus en plus de personnes se posent aujourd'hui la question de leur activité professionnelle dans le contexte justement de la crise environnementale et recherchent un employeur engagé dans la transition. En septembre 2018, des étudiants passaient à la vitesse supérieure en publiant un manifeste pour un réveil écologique. Pour eux, plus question de foncer tête baissée vers des entreprises qui ferment les yeux justement sur l'environnement. Quels sont les enjeux écologiques dans le monde du travail? On en parle dans un instant avec mes invités. J'attends bien sûr toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Elle est également de retour dans cette émission, Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonne année.
Bonne année Camille.
Bon, c'est pas très joyeux parce que je vais vous parler de l'Australie. Ce ne sont pas 480 millions d'animaux, mais le double, presque 1 milliard touchés par les incendies et la sécheresse.
On fait le point avec vous dans un instant dans la deuxième demi-heure. Le feuilleton de la semaine avec vous Antoine Lee. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et pour votre série, vous avez rencontré des personnes qui, dans leur activité, prônent la sobriété et d'autres façons de consommer, c'est ça?
Voilà, et aujourd'hui, je vais vous parler de designers écologistes qui font des meubles avec la méthode du surcyclage.
Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui la scientifique Claude Grison qui a trouvé justement des solutions innovantes pour dépolluer les sols et l'eau grâce aux plantes. Et puis enfin, notre invitée découverte, la chercheuse Florence Poncet, nous dira ce qu'il reste de la pollution de l'Erika sur les côtes françaises 20 ans après le naufrage du pétrolier. Voilà donc pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, avec à la technique Julien Dumont et Guillaume Roux.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Voilà, trouver donc un travail et un employeur engagé dans la transition écologique, c'est donc le dossier de la Terre au carré cet après-midi. Pour en parler, deux invités, Antoine Trouche et Gaël Bourron. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue Antoine Trouche, vous êtes diplômé des arts et métiers de Sciences Po et membre donc d'un collectif pour un réveil écologique qui a publié en septembre 2018 un manifeste lancé donc par des étudiants des grandes écoles. On va en parler avec vous dans un instant. Et puis Gaël Bourron, vous êtes responsable adjoint du pôle d'études de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Alors Antoine Trouche, justement, dans quel contexte est né ce manifeste qui a déjà recueilli, alors ce matin c'était 32 000 signatures hein, d'étudiants et d'étudiantes, dont 6 000 d'ailleurs sont non français. C'était quoi l'idée de départ pour vous?
L'idée de départ, c'était de dire qu'on voulait plus être schizophrène. L'idée de départ, c'était de dire que aller au vélo, en vélo au travail, c'était bien, mais si c'était pour construire des SUV ou des centrales à charbon derrière, c'était pas très utile. Donc en fait, le manifeste, il a rien fait de très original au départ. Il a mis des mots sur ce que ressentaient beaucoup d'étudiants et de jeunes diplômés. Ils disaient en clair, nous, on veut avoir une action qui est utile face à l'urgence écologique qui va impacter l'ensemble de notre vie. Pour avoir une action utile, il faut évidemment passer par ce par quoi on a tous une marge de manœuvre, c'est-à-dire par le vote, par l'engagement politique, par les changements de consommation. Mais nous, en tant que jeunes diplômés, on a une marge de manœuvre qui est énorme. Et cette marge de manœuvre, elle se trouve dans le choix d'un emploi qui est compatible avec les limites de la planète. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un appel via ce manifeste pour dire voilà, nous on choisit et on affirme haut et fort le fait qu'on va aller vers des emplois dont les activités, dont les conséquences sont compatibles avec une prise en compte sérieuse de l'urgence écologique. Ouais. Et avec une contrepartie derrière, et c'est ça qui a beaucoup marqué tout un tas d'entreprises, qui était de dire attention, nous, du coup, la conséquence de ce choix, c'est qu'on ne va pas aller travailler pour des entreprises dont les activités sont pas compatibles avec un monde qui prend au sérieux l'urgence écologique.
Donc l'idée, c'était de faire peur aussi, un petit peu, finalement, le monde du travail, de le secouer, de lui faire prendre conscience aussi que tous ces jeunes qui arrivaient là bientôt sur le marché du travail avaient une conscience et un désir aussi de donner du sens à leur futur emploi.
Mais l'idée surtout, c'était de dire à tous les jeunes qui sont en train de se poser des questions qu'ils sont pas seuls. Qu'ils font partie d'un mouvement global, qui est un mouvement d'une prise de conscience que l'urgence écologique, l'Australie dont on va parler un peu plus tard, en est un bon exemple, va impacter chaque aspect de notre vie, que ce soit le dérèglement climatique, que ce soit l'effondrement de la biodiversité, que ce soit la baisse des ressources non renouvelables. Tout ça va changer profondément notre vie, commence déjà à la changer. Et du coup, il est pas acceptable pour nous de rester sur des comportements qui sont des comportements individuels et des changements de comportements individuels utiles, mais qui sont pas efficaces si jamais on ne change pas ce qui concentre la plupart de notre temps éveillé durant notre vie, c'est-à-dire notre travail.
Est-ce que c'est mesurable aujourd'hui, finalement, cette prise de conscience ou ce décalage non souhaité aujourd'hui par cette jeune génération-là?
En fait, on voit des signaux un peu partout. Il y a Patrick Pouyanné qui était interviewé sur France Inter il y a peu de temps, qui disait que dans les pays occidentaux, un des plus grands problèmes qu'il voyait durant les prochaines années, c'était le problème du recrutement. On a Isabelle Cochère, il y a quelques mois, qui a annoncé qu'elle voyait de plus en plus remonter, de par sa direction des ressources humaines, des questionnements durant les entretiens d'embauche sur l'impact écologique de son entreprise. Et des signaux comme ça, il y en a un peu partout.
Alors évidemment, c'est intéressant de voir si ça ne concerne que les étudiants aujourd'hui, Gaël Bourron, puisque cette recherche de sens, visiblement, ne concerne pas que les jeunes diplômés, mais aussi des gens plus âgés, des cadres par exemple. Vous avez pu le mesurer justement avec l'APEC ou pas ?
Dans une de nos études récentes, on a souligné effectivement le fait que plus de la moitié des cadres aujourd'hui souhaitent avoir un travail qui a du sens. C'est une dimension extrêmement importante pour eux aujourd'hui. On le voit notamment pour les cadres qui ont 35, 40 ans, qui ont une première partie de carrière et qui peuvent chercher un métier ou une entreprise plus en adéquation avec leurs valeurs. C'est donc bien un phénomène qui ne touche pas simplement les jeunes diplômés. Mais l'initiative du réveil écologique, elle s'inscrit aussi dans un contexte qui est particulier, qui est un contexte très favorable pour l'emploi des cadres, l'emploi des profils très qualifiés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les entreprises peuvent avoir des difficultés à recruter et que le rapport de force entre recruteurs et candidats est en train de s'équilibrer avec plus d'offres d'emploi et moins de concurrents, ce qui peut permettre davantage aux candidats, entre guillemets, de faire leur choix dans un contexte un peu particulier, post-crise, où le taux de chômage des cadres est extrêmement faible. Et donc, dans ce contexte, effectivement, c'est favorable pour que les entreprises répondent davantage aux aspirations des candidats.
Donner du sens, mais c'est vraiment donner du sens dans le domaine de l'environnement ou pas ? Est-ce que ça ressort très clairement aussi
des
études ?
Non, c'est vrai que dans nos études, clairement, la recherche de sens dans le travail, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. On n'a pas une seule dimension. On distingue souvent dans les recherches trois dimensions, dans le sens au travail, une dimension émotionnelle, une dimension cognitive et une dimension aspirationnelle. La dimension cognitive, c'est le fait de ressentir au travail davantage d'affects positifs que d'affects négatifs.
Oui, donc avoir moins de dissonance,
avoir de la reconnaissance, avoir des bonnes conditions de travail, avoir un plaisir à retrouver ses collègues chaque matin. La dimension cognitive est extrêmement importante pour les cadres et les jeunes diplômés, c'est ce qu'on fait au quotidien dans son travail, c'est-à-dire est-ce qu'on apprend de nouvelles choses ? Est-ce qu'on développe bien nos compétences ? Est-ce qu'on a la capacité, la possibilité d'évoluer dans son travail ? Est-ce que ce qu'on fait a un impact ? Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, la dimension aspirationnelle, c'est là où on va retrouver le sens de l'entreprise. C'est le sentiment de contribuer et d'adhérer à un projet d'entreprise. Clairement, aujourd'hui, si on travaille dans une entreprise qui est extrêmement vertueuse sur le plan de l'environnement, mais qu'à côté, on a un management qui est trop directif, que ce qu'on fait au quotidien n'a aucune valeur d'utilité perçue pour la personne qui exerce ce poste, ou on n'a pas l'impression de servir à quelque chose en entreprise, ça ne suffira pas d'avoir une entreprise qui est vertueuse sur le plan de l'environnement. De travailler dans cette entreprise ne suffira pas à donner un sens suffisant à son travail. Il y a clairement ces différentes dimensions, mais il est vrai qu'aujourd'hui, cette dimension aspirationnel, le fait d'être davantage en accord avec les valeurs portées par son entreprise et ses valeurs personnelles, une adéquation plus forte entre ces deux sphères de valeurs, c'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus important pour les jeunes diplômés, mais aussi pour les cadres un peu plus confirmés.
Alors on y reviendra avec vous dans un instant, Gaël Bourron, pour voir aussi quels sont les cadres que vous avez pu suivre et qui ont pu changer d'entreprise justement pour y se trouver un employeur plus en adéquation en tout cas avec leur souhait. Antoine Trouche, justement, elles ont mordu à l'hameçon les entreprises suite au manifeste ou pas ? Comment est-ce qu'elles ont réagi ?
Elles ont réagi de façon très variable, mais la plupart c'était un peu d'inquiétude qu'on a ressenti chez elles. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a été invités un peu partout pour intervenir devant des directions d'entreprise qui essayaient de comprendre ce qui se passait, puisque ils voyaient des gens qui étaient comme eux il y a quelques années, qui la plupart du temps sortaient de grandes écoles, qui se mettaient à faire des choix qui étaient totalement, qui leur étaient totalement étrangers, sur des bases qui étaient un peu incompréhensibles pour elles. Nous, ce qu'on a propulsé vis-à-vis de ces entreprises, c'est que on est allé les rencontrer pour leur dire et pour leur porter le message qui était que le fait que leur entreprise était attractive pour des jeunes était plus évident. C'était et que les questions de rémunération, que les questions de sens de l'impact social de l'entreprise étaient importantes, étaient essentielles, mais ça faisait plus tout. Voilà. Et nous, surtout, on s'est servi de ça pour comprendre comment fonctionnaient ces entreprises, pour voir quelle était leur marge de manœuvre, et pour ensuite aider et formaliser des outils à destination des étudiants. Parce que une fois qu'ils avaient signé le manifeste, le grand défi, c'était de dire « Ok, mais moi, dans mon secteur, comment je fais pour aller trouver des entreprises qui sont plus vertueuses que les autres sur des sujets écologiques ?» Sachant que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les changements de paille en plastique ou de touillettes, voilà. C'est est-ce que l'activité même de l'entreprise est compatible avec un monde qui reste juste habitable correctement dans la durée. On n'a pas des ambitions extraordinaires.
Et ça, on peut le savoir facilement ou pas? Il y a des questions précises à se poser pour essayer de trouver le bon employeur?
Et bah c'est ce à quoi on a travaillé. C'est-à-dire que nous on a mis en ligne un site internet qui s'appelle Pour un réveil écologique pour tirer
une plateforme,
tout à fait. Pour tirer un tirer réveil tirer écologique.org qui liste et qui met à disposition des gens qui sont comme nous hein, jeunes diplômés des outils pour se poser les bonnes questions. Alors se poser les bonnes questions très rapidement, c'est quoi? C'est d'abord se demander si l'activité de l'entreprise a en elle-même un sens vis-à-vis de l'urgence écologique. Je suis pas totalement convaincu que pour quelqu'un qui sort d'école maintenant, aller construire des tanks de 2 tonnes, 2 tonnes 5 sur les routes, qui consomment beaucoup et donc émettent beaucoup de gaz à effet de serre, en plus d'être très cher, ça ait beaucoup de sens vis-à-vis de l'urgence écologique. Je suis pas convaincu qu'aller construire des centrales à charbon, ça ait beaucoup de sens vis-à-vis de l'urgence écologique. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Donc la première grande question, c'est celle-là. Et du coup, ça ouvre après tout un champ de questionnement qui est, bon, une fois qu'on est convaincu que ce qu'on fait a un peu de sens, il faut qu'on aille trouver les entreprises qui diminuent leur impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre, en matière d'impact sur la biodiversité, en matière de consommation de ressources et d'eau, etc., etc. Donc on a mis à disposition tout un tas d'outils pour se poser ces bonnes questions-là et surtout savoir où aller trouver les informations. Pour savoir où trouver les bons rapports, les bons articles, les bonnes infos, pour apprendre à poser des questions pendant les entretiens d'embauche, ce qui se fait de plus en plus, mais on se sent pas forcément légitime pour le faire. Donc c'est pareil, on a formalisé tout un tas de questions à poser dans ces moments-là, pendant les forums, etc., etc.
Votre employeur est-il compatible avec vos engagements en matière d'écologie? C'est presque la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 01 45 24 7000 pour à la fois y répondre et pourquoi pas, bien sûr, pour interroger nos invités. Antoine Trouche et Gaël Bourron, on vous retrouve dans un instant, également franceinter.fr, évidemment, pour poser toutes les questions.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, on parle de la terrible situation en Australie, évidemment en raison des incendies et de la sécheresse.
Oui, ce que la presse australienne a surnommé The Monster, le monstre qui ravage l'est du pays, en particulier depuis le mois de septembre. Mais les choses se sont intensifiées et aggravées ces derniers jours. Emmanuel Macron a d'ailleurs proposé hier une aide opérationnelle d'urgence de la France. 5 millions d'hectares touchés, vous avez entendu ce chiffre ce week-end, comparé à deux fois la taille de la Belgique. Autre chiffre, un demi-milliard d'animaux possiblement morts. Juste en Nouvelle-Galles du Sud, c'est l'état de la ville de Sydney. Chiffre calculé par le professeur Christopher Dickman, chercheur en écologie à l'université de Sydney, que j'ai pu joindre hier soir et il a revu son compte.
It's about 812 million.
812 millions.
812 millions.
812 millions, c'est énorme.
It is enormous.
C'est énorme. Et ça n'inclut pas les dégâts dans les états du Victoria, d'Australie méridionale ou l'Ouest. Je n'ai pas calculé précisément, mais ce serait plus d'un milliard.
Voilà, un milliard d'animaux. Le chiffre est vertigineux. Le scientifique et son équipe ont regardé toutes les données, en fait, et les études qui existent sur les densités de population d'oiseaux, de marsupiaux et de reptiles dans le territoire. 75 à 80% de ce milliard sont des reptiles, d'ailleurs, des lézards, des serpents, etc. Et tous ces animaux, ou presque, devraient donc mourir brûlés ou asphyxiés. Mais ce n'est pas tout.
Des oiseaux peuvent s'échapper en volant, mais le taux de mortalité va rester haut parce qu'ils doivent trouver des lieux où se réinstaller. Sinon, ils n'auront pas à manger, pas d'abri, toutes les ressources dont ils ont besoin. Mais presque tous les alentours seront déjà occupés.
Et c'est pareil pour certains reptiles ou wombats. Et Christopher Dickman précise aussi que les données qu'il a ne prennent pas en compte, par exemple, les grenouilles, les poissons ou les chauves-souris qui sont très nombreuses et qui sont aussi endémiques en Australie. Donc le chiffre pourrait être encore pire.
Et alors les animaux qui sont sauvés, Camille, on voit beaucoup d'images en ce moment.
Oui, des koalas, des kangourous ou des phalangés volants, sugar glider en anglais, un tout petit marsupial qui fait des vols planés, les pattes ou la tête bandée comme des malades à l'hôpital. Chez Christy, par exemple, qui a une maison à 200 km au nord-ouest de Sydney.
J'ai 6 kangourous dans une pièce, 4 opossums dans une chambre à côté. Ça ressemble un peu à un zoo, en fait.
Une maison pleine d'animaux rescapés et très abîmés.
Certains d'entre eux sont sévèrement blessés sous leurs pattes. Et si vous connaissez les kangourous, ils ont de très grandes pattes. Nous avons aussi eu un koala tout maigre, sous-alimenté et déshydraté. Un opossum qui est arrivé avec de vilaines blessure. On a pu le traiter pour pas qu'il n'ait mal, mais il est mort 2 jours après. On pense qu'il a inhalé la fumée de l'incendie qui était très violent.
Alors Christy est l'une des 3600 volontaires de l'association Wires en Nouvelle-Galles du Sud. C'est la plus puissante pour la défense des animaux sauvages en Australie. Et son porte-parole, John Grant, n'a jamais vu ça.
Jamais. On n'a jamais connu une situation aussi terrible. On n'a même pas encore pu faire d'estimation parce qu'on est trop occupé à sauver, emmener chez le vétérinaire, soigner les animaux. Ça n'arrête pas.
Alors, je ne sais pas si vous savez quels animaux ils retrouvent le plus.
Non.
Ce sont les bébés kangourous, les bébés koalas et autres bébés marsupiaux. Et voilà pourquoi.
Ils portent tous leurs petits dans une poche, mais quand ils sont stressés, ils l'éjectent. C'est l'instinct de survie. En essayant de fuir un incendie, par exemple, une maman kangourou va abandonner son bébé.
Et il n'y a pas que les animaux, hein, il y a aussi la végétation. John Grant est allé voir le paysage à quelques kilomètres de chez lui.
Le bush est noir, c'est tout noir, comme un paysage lunaire avec des pics noirs qui sortent de terre. On ne voit rien, c'est très silencieux. C'est assez irréel et c'est très dur.
Et si vous voulez aider même de l'autre bout du monde, eh bien vous pouvez en allant vous aller sur la page Facebook de Wires ou sur leur site internet. On vous a mis les liens sur franceinter.fr. Dernière précision, pas de bilan non plus encore, par exemple pour les troupeaux de vaches ou les chevaux. Hein, ce sont les fermiers qui communiqueront et les bilans de toute façon ne seront pas faits avant des mois et des mois puisque The Monster est toujours en cours.
Merci beaucoup Camille Passauvert et bien sûr c'est à réécouter sur franceinter.fr. Antoine Trouche, justement on le voit, de plus en plus d'événements environnementaux font la une de l'actualité aujourd'hui, l'Australie évidemment, l'Amazonie, c'était au début de la rentrée en septembre dernier. Ça, ce sont des exemples qui, selon vous aussi, concernent les étudiants, en tout cas les mobilisent aussi d'une certaine manière aujourd'hui, pour leur donner envie peut-être d'aller plus loin plus tard dans leur travail.
Bah, ce qu'il faut voir, et l'Australie est un bon exemple de ça, c'est que, j'insiste vraiment, l'urgence écologique va changer l'intégralité de notre vie. Le dérèglement climatique, pour parler que de lui, ça va avoir un poids sur la fréquence des catastrophes naturelles qui vont pas toucher que des pays éloignés. Alors c'est déjà dramatique, là on parlait de l'Australie, juste à côté de l'Australie.
Il y a des inondations en France ces dernières semaines.
C'est ça, pour parler d'inondations, il y a des inondations monstres en Indonésie, juste à côté de l'Australie. Il faut parler de l'effondrement de la biodiversité. Ce dont vous parliez, ça a pas juste un impact dans le fait que ça fasse disparaître des animaux mignons. L'effondrement de la biodiversité, c'est aussi des cultures qui ont plus de difficultés à produire. C'est aussi des cycles de l'eau qui sont impactés. Ça a tout un tas d'impact en fait sur notre vie quotidienne, au-delà de ce que nous on peut trouver mignon ou pas. On a un vrai problème de raréfaction de certaines ressources, de certains métaux comme le cuivre, etc. Tout ça, ça va complètement transformer notre société. La façon dont fonctionne à l'heure actuelle notre société est pas compatible avec un monde qui va devenir de plus en plus contraint. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce qu'on en fait, c'est ce qu'on peut en faire nous dans nos actes du quotidien, c'est ce qu'on peut en faire nous dans notre engagement politique, et ce qu'on peut en faire nous dans notre travail. Et le fait d'aller vers des métiers qui ont du sens écologiquement parlant, c'est à la limite, c'est même pas du militantisme, c'est pour nous, jeunes diplômés, c'est juste un engagement normal, c'est un engagement qui conduit au fait qu'on reste dans un monde qui reste à peu près agréable à vivre, et si possible, pour un maximum de monde.
Eh bien, on en parle ensemble dans un instant, c'est la deuxième partie de notre dossier, avec également Gaël Bourron de la PEC et vos messages sur franceinter.fr.
Principal, mon obsession sentimentale. On incendie mon petit coin de paradis. Elle a dit, c'est pas de la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchip tchip, c'est fini. Elle a dit, c'est pas de la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchip tchip, c'est fini. Elle est l'amour de mes amours et le glamour. Elle est ma psychothérapie, ma sophrologie. Elle est ma chance, son incidence. Elle a l'aimé et le plus beau de mes soucis. C'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Chip chip, c'est fini. Chip chip, c'est fini. Chip chip, c'est fini.
Vous avez reconnu la voix d'Arnaud, bien sûr. Chip, chip, c'est fini.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, trouver un emploi compatible avec ses convictions, ses engagements en matière d'écologie. Donc, une entreprise engagée déjà dans la transition, c'est le thème de l'émission avec mes invités. Antoine Trouche, membre du collectif pour un réveil écologique, et Gaël Bourron, donc responsable adjoint du pôle d'études de l'APEC, cette association pour l'emploi des cadres. Beaucoup de réactions, de messages, de témoignages. On va tout de suite rejoindre Florence qui nous attend au standard de la Terre au carré. Bonjour Florence.
Bonjour,
merci,
à tous.
Merci d'être avec nous. Merci, bonne année à vous aussi et on vous écoute.
Merci. Alors, je suis très concernée par toute la problématique de la transition énergétique et du développement durable, c'est pour ça que je vous écoute aussi. Et je cherche à travailler dans le domaine, mais ça marche pas beaucoup ma recherche d'emploi et ça fait 2 ans que je suis au chômage. Et c'est vrai que... pour ce domaine-là, il y a beaucoup d'offres qui sont très techniques.
C'est quoi votre domaine?
Alors moi, à la base, je suis chercheuse en physique, plutôt dans le nucléaire. Mmh. Et donc, ça fait... il n'y a pas beaucoup d'emplois dans la recherche non plus. Et puis, je cherche à sortir du nucléaire, moi aussi.
Oui.
Et voilà. Et donc, ça fait 2 ans que je cherche. Que je cherche des postes de chargé de mission, plan climat, air, énergie territoriale, développement durable, plan alimentaire territorial, tout ça. Et en fait, si on n'est pas ingénieur territorial, c'est assez fermé.
Donc Florence, ça veut dire compliqué. Que vous avez
donc,
un doctorat...
Si vous avez des tuyaux, je suis preneuse.
Bon, alors ça veut dire que vous avez un doctorat dans le nucléaire et que vous souhaitez sortir donc du domaine que vous avez pourtant, qui vous a demandé beaucoup de temps, en tout cas d'études, c'est ça?
Ah oui, j'ai 2 masters plus 1 doctorat. Mmh. Donc la moitié du temps, on me dit que je suis surqualifiée. Après, on me dit que j'ai pas les compétences, j'ai pas d'expérience dans le développement durable. Sauf que c'est assez récent le développement durable. Il y a beaucoup d'ingénieurs territoriaux qui n'ont pas d'expérience non plus. Et je trouve que le domaine est quand même assez fermé.
Alors, Gaël Bourron, notre invité de l'APEC, a peut-être une réponse en tout cas à vous donner.
Oui, en tout cas, il est vrai que on est dans un domaine, l'environnement, où on pense effectivement protection de la nature, développement durable, et la réalité du marché de l'emploi des cadres dans l'environnement. On a publié une étude sur le sujet il y a un mois. Mm-hmm. C'est une réalité beaucoup plus contrastée. On est sur des métiers qui sont, vous l'avez dit, extrêmement techniques, notamment sur la prévention, le traitement des pollutions, sur les risques, les méthodes, la qualité. On est sur des métiers qui demandent aussi beaucoup d'expérience, donc ça demande sans doute de refaire un peu le point sur vos compétences, sur là où vous êtes, vous pouvez mettre à profit vos compétences dans une nouvelle entreprise dans le domaine. Je vous conseille bien sûr d'aller voir un centre APEC pour faire ce point sur vos compétences. Mais plus globalement, pour nos auditeurs, il faut bien avoir en tête qu'on est dans un domaine, même si on est dans l'environnement, on est dans des profils qui sont recherchés, qui sont extrêmement techniques, avec beaucoup d'ingénieurs qui sont recherchés dans ce domaine. On n'est pas sur de la protection de la nature au sens habituel du terme.
Antoine Trouche.
Ah oui, moi, ce que je veux rajouter très rapidement, c'est que avoir un impact qui est positif dans son entreprise ou pour un employeur, c'est pas uniquement travailler en tant que dans un métier qui est directement écologiste.
Oui.
Le fait de travailler pour une entreprise qui a une activité qui est positive pour l'environnement, c'est positif qu'on ait un métier directement lié à l'écologie ou pas. Je donne un exemple très rapide. Aller bosser pour une compagnie ferroviaire, vous travaillez ou pas pour le service développement durable de votre compagnie ferroviaire, c'est utile pour l'environnement. Et ça le sera toujours infiniment plus qu'aller chez son concurrent qui est une compagnie aérienne.
Voilà. Antoine Trouche, on a Francis Parmel qui nous dit « J'entends votre émission, je me dis que c'est encore une affaire de bobos privilégiés qui ignorent totalement la réalité de l'emploi. Pour la plupart des gens, les vrais, un emploi c'est pour manger et se loger. Et déjà, ça c'est compliqué. Et moi j'ajouterais même ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez fait des grandes études, etc. Est-ce qu'à un moment la conscience fait le poids face à une situation confortable, à un contrat proposé avec des milliers d'euros à la clé tous les mois.
Mais vous avez totalement raison, et je pense que l'auditeur, il a complètement raison. Faut pas oublier que dans le monde, il y a 1% des gens qui émettent autant de gaz à effet de serre que 50% de la population. Donc ceux qui doivent en premier agir, c'est les gens les plus riches, c'est les plus favorisés. Nous, si l'initiative elle est venue de grandes écoles au départ, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que nous, en tant que jeunes qui sortaient de grandes études, de grandes écoles plutôt privilégiées, on avait un devoir qui était particulier. Et on avait un devoir d'autant plus important que nous, on a la chance, dans une société dans laquelle il est plus compliqué de trouver un emploi, on a la chance d'avoir encore un peu de marge de manœuvre dans le choix de nos emplois. Et c'est pour ça que nous, on dit, il faut que ça vienne de nous. Faut que nous, au départ, on aille, vu qu'on est les plus privilégiés, il faut qu'on aille vers des emplois qui ont du sens.
Mais est-ce que pour autant, vous parlez de Patrick Pouyanné tout à l'heure chez Total, par exemple, est-ce que les recrutements baissent? Non, j'imagine pas. Je cite cette entreprise parce que vous en avez parlé.
Ah, moi, je pense que si Patrick Pouyanné vient sur France Inter pour dire qu'il va avoir un gros souci dans les prochaines années, qui est le souci du recrutement, je pense que, alors je sais pas ce qu'il en est de Total à l'heure actuelle, mais je suis à peu près convaincu qu'ils vont avoir de gros problèmes et qu'ils le disent. C'est pour ça qu'ils le disent. Et on le voit dans les écoles. On voit dans les écoles que c'est pas bien vu globalement d'aller chez Total. Il y a pas que chez Total que ça devrait être mal vu. Mais on voit déjà que dans les consciences, il y a tout un tas d'endroits dans lesquels le fait de dire qu'on va travailler chez Total, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur ou de plus socialement valorisant.
On parlera des 20 ans de l'Erica justement dans la deuxième demi-heure de l'émission. Violaine nous écoute et nous envoie un message sur l'application France Inter de la Terre au Carré. Il y a 1,9 million de fonctionnaires territoriaux et le CNFPT, donc le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, qui assure la formation de ces fonctionnaires, n'organise aucune formation au développement durable, alors que ce sont ces collectivités qui seront en première ligne dans les futures crises environnementales. Gaël Bourron, est-ce que vous voulez souhaiter répondre à Violaine ?
Nous, on s'intéresse plutôt au cadre du privé qu'à la fonction publique, donc je suis surpris évidemment. Peut-être que, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont menées par les collectivités territoriales dans ce domaine-là aussi, et tous les cadres de la fonction publique territoriale, pour beaucoup, sont engagés dans ces actions-là aussi. Donc.
Antoine Trouche, vous avez un complément de réponse ?
Oui, tout à fait, mais la formation, c'est une vraie question. Et nous, du coup, on travaille aussi, on a mis en ligne sur la plateforme dont on parlait tout à l'heure, tout un tas d'outils à destination des étudiants pour qu'ils puissent, dans leur école, aller réfléchir à la transformation de leur formation.
Oui, c'est d'ailleurs aussi une question dans les grandes écoles et dans les universités qui font des formations très très minimes au développement durable. Catherine nous dit, émission indispensable, mais vous avez grosse tendance à classer jeunes vieux. Les vieux aussi aiment bosser dans le développement durable et veulent changer leur consommation. Et certains jeunes n'ont pas le choix. Gaël Bourron.
Oui, tout à fait. On a effectivement, dans nos enquêtes, dans nos sondages, beaucoup de cadres plus expérimentés, qui ont 35, 40 ans, qui se réinterrogent sur le sens de leur travail, qui ont envie, après une première partie de carrière, d'aller vers de nouveaux domaines. On a notamment fait une étude auprès de cadres qui travaillent dans le secteur privé lucratif et qui sont ensuite allés vers le secteur associatif. Pour que ça corresponde davantage
à la... C'est un vrai choix important.
Donc c'est un vrai choix important par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, des gens qui sont prêts à quitter des postes bien rémunérés avec des missions dans les grandes entreprises pour aller dans des associations de solidarité, par exemple. Donc on n'est pas dans le domaine environnemental, mais on est bien dans des jobs avec forte utilité sociale.
Mais le bilan est positif ou ça crée de mauvaises surprises aussi parfois finalement de changer de secteur pour être en adéquation avec ses idées?
C'est une recherche qu'on a fait avec des chercheurs du CNAM et ils ont titré leur recherche entre déconvenu et espoir. C'est-à-dire que, évidemment, à chaque fois, il y a un bilan qui est à faire, une balance qui est à faire entre ce qu'on va retrouver dans ce emploi, dans le secteur associatif, où la question du sens, la question de l'utilité sociale de l'organisme dans lequel on travaille ne pose pas de questions, puisque là, on est dans quelque chose qui est nécessairement utile à la société, mais par contre, avec des difficultés sur les conditions de travail ou sur la façon dont on va travailler avec des bénévoles, par exemple, quelque chose qui n'est pas forcément évident pour des gens qui viennent du secteur privé.
Merci beaucoup à tous les deux. Antoine Trouche, on peut toujours signer le manifeste, hein, il est en ligne pour un réveil écologique.
On peut toujours le signer, et puis il faut surtout pas hésiter à aller voir le site pour aller voir et découvrir tous les outils qu'on met à disposition, qu'on a construit pendant un an, et qui vous permettent de vous poser les bonnes questions quand vous allez vers un job qui a du sens.
Et le lien est évidemment sur la page de La Terre au Carré. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.
Merci, merci beaucoup.
Juste après les infos, le feuilleton de la semaine avec une nouvelle série signée Antoine Lee qui a rencontré des personnes qui prônent la sobriété et justement une autre façon de consommer dans leur activité. Bon après-midi avec France Inter. Bonne rentrée, il est 14h.
Inter. La Terre au carré.
Et dans cette deuxième demi-heure, avec vos solutions pour la planète, nous ferons connaissance avec une scientifique, Claude Grison, qui a trouvé des solutions innovantes pour dépolluer les sols et l'eau grâce aux plantes. C'est passionnant, vous allez tout comprendre tout à l'heure. Et puis notre invitée découverte est la chercheuse Florence Poncet, qui elle nous dira ce qu'il reste de la pollution de l'Erika, un tout petit peu plus de 20 ans après le naufrage du pétrolier, c'était en décembre 1999. Mais pour le moment, nouvelle série de reportages que vous signez Antoine Lee, avec donc des personnes qui prônent une forme de sobriété, une autre façon de consommer dans leur activité. Aujourd'hui, vous nous parlez de déco-écolo avec le surcyclage, plus connu sous son appellation anglaise, Antoine, de l'upcycling.
Et rien ne se perd, tout se transforme, c'est la devise du surcyclage. On prend un objet, on le transforme pour en détourner sa fonction. Une start-up française en a fait sa spécialité dans le domaine de la déco. Ce sont trois jeunes designers qui ont créé Maximum il y a 4 ans. Ils fabriquent des tabourets, des canapés, des lampes ou encore des tables uniquement avec des matériaux récupérés auprès d'industriels. Une façon originale de lutter contre les déchets et le gaspillage. Il faut savoir qu'en France, l'industrie rejette un tiers de sa production sous la forme de rebut. Ça représente tout de même près de 30 millions de tonnes de déchets par an. Et donc je me suis rendu à Ivry-sur-Seine, où Basile de Gaulle, l'un de ses designers écolos, m'a fait visiter leur atelier de 1300 mètres carrés.
Là, on est en train de fabriquer des piétements en chêne, issus de chutes de tonneaux. C'est un tonnelier français qui nous fournit ces chutes. La machine qu'on entend, c'est une scie circulaire. C'est l'outil basique de la production en menuiserie.
Basile de Gaulle, quelle est la différence entre l'upcycling et le recyclage ?
Dans le recyclage, on va prendre une matière qui a été transformée par une industrie, par exemple, et on va la détruire pour revenir à sa matière première. C'est un retour en arrière qui permet ensuite de reproduire des formes, mais à partir de matière. Alors que le surcyclage, on va pas se baser que sur la matière, on va se baser aussi sur la forme, sur toutes les caractéristiques qui sont contenues dans un déchet. Et nous, on ne détruit pas, on repart de là où ça en est et on essaye d'exploiter au maximum toutes les caractéristiques qui se sont ajoutées au fil du temps. C'est ça l'upcycling en fait. Bah là, c'est les barrières qu'on connaît bien, c'est les barrières Vauban. Donc,
c'est les barrières qu'on voit aux manifs, pendant les manifs, là, avec des petits barreaux. Là.
Et en fait, ce qui se passe aux manifs, c'est qu'on roule sur les pieds. Donc une fois qu'elles ont ce défaut, elles sont entreposées et ensuite elles sont revendues pour la ferraille en fait. Nous, ce qu'on fait, c'est que on veut pas l'acheter pour le métal que c'est. On l'utilise pour la forme qu'elle a et toutes les opérations qui ont été faites dessus. Il y a 68 soudures sur une barrière comme ça. C'est extrêmement intéressant de repartir de là. Et c'est comme ça qu'on fait le banc que tu vois juste ici.
Et donc vous partez de cette barrière et vous la tordez pour lui donner une nouvelle forme, lui donner une forme de canapé.
Exactement. Simplement en enroulant la barrière autour d'elle-même. Ça nous viendrait pas à l'idée de la couper ici, par exemple, et de la ressouder. Ce serait contre-productif par rapport à notre approche des choses où c'est déjà soudé, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Après, il y a toutes les finitions, il y a la fabrication des coussins ou des lattes dans le cas du banc. Par exemple, ici, pour les lattes, c'est des chutes de terrassiers.
Basile de Gaulle, vous, comment vous avez eu l'idée de créer Maximum, cette société de design écolo ?
qu'on n'était pas à l'aise de faire ce métier de designer, de créer des nouveaux meubles, des nouvelles choses qui vont ensuite alimenter un système finalement linéaire, hein, on achète les choses, donc elles sont produites, on les achète, on finit par les jeter, puis on les détruit. Donc on ne voulait pas contribuer comme ça à ce système un peu malade. Un meuble qui sort de chez nous, c'est autant de déchets qui sortent des poubelles. Donc plus on va produire, et plus on va dépolluer. Donc c'est aussi simple que ça, donc c'est une équation assez vertueuse. Voilà, je vais vous montrer la Déchetech. C'est notre organe central chez Maximum. C'est comme une bibliothèque, sauf qu'on classe pas les choses par ordre alphabétique, on les classe par forme. Et ça recense en fait tous les déchets qu'on est allé trouver chez les industriels. On a ici des morceaux de carbone qui sont des planchers d'A350. On travaille avec Airbus qui nous fournit les planchers qui sont rayés. Là, c'est des tuyaux de pompiers. Ici, c'est des cordes d'escalade. Là, c'est un résidu de bitume quand on fait les enrobés des routes. C'est une matière qui est très belle. Mais sauf que là, on va se poser des questions sur le bitume, de ce que ça dégage en termes d'atmosphère. Et nous, il est hors de question qu'on utilise des déchets qui soient classifiés comme dangereux, polluants pour l'intérieur.
Quel est l'intérêt des industries de vous fournir cette matière première ?
D'un point de vue économique, c'est très intéressant, puisque un industriel qui se débarrasse de son matériau, on va dire, en l'enfouissant ou en le faisant détruire par des organismes, il va payer pour ça, et nous, on va lui reprendre gratuitement. Donc c'est là qu'on propose quelque chose où il n'a rien à perdre et où il est du coup content de participer.
Alors, est-ce que ça coûte cher, ces meubles surcyclés, Antoine ?
Eh ben, ça va de 38 euros pour des tabourets à 800 euros pour certaines tables. Les photos de ces meubles, comme d'habitude, sur la page Facebook de l'émission.
Et demain ?
Eh ben, demain, on parlera des serres connectées.
Donc, rendez-vous juste après les infos de 14h. Merci Antoine Lee, à demain.
Merci.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Une scientifique, Camille, avec nous dans vos solutions pour la planète. Elle s'appelle Claude Grison, elle est en ligne avec nous. Bonjour.
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 Bienvenue, vous êtes Claude Grison, éco-chimiste et directrice CNRS de Chimeco, on le prononce comme ça ?
Chimeco,
voilà, laboratoire de chimie bio-inspirée et d'innovation écologique.
Alors pardon, mais je ne comprends pas, éco-chimiste.
Eh bien, vous allez nous expliquer, Claude Grison, alors ça consiste en quoi votre métier ?
Alors mon métier consiste à combiner d'une façon un petit peu inhabituelle l'environnement, l'écologie scientifique et une nouvelle chimie qui se nourrit de tous les efforts écologiques qu'on fournit sur le terrain.
Alors justement, on pense avoir un peu plus sur le site de Reporter, reporter.net, avec un article du mois de novembre signé Lorraine Lavocat, qui concerne justement vos travaux pour dépolluer les sols et les eaux avec une solution efficace et écolo, ce sont les plantes. Ça c'est le cœur de votre travail au laboratoire ?
Oui, complètement. Donc, on s'intéresse vraiment à des plantes hors normes qui sont adaptées à la pollution et qui vont nous permettre d'élaborer des phytotechnologies qui vont, à leur tour, être très utiles pour restaurer des écosystèmes terrestres tels que des sols dégradés, pollués, également des systèmes aquatiques.
Alors, justement,
sur
quel type de site dégradé, précisément, est-ce que vous avez travaillé, Claude Grison ?
Alors initialement, on a commencé à travailler sur des sites miniers, d'ailleurs pas très loin de Montpellier, dans le Gard, hein, qui est un ancien département minier important. On a montré que sur des sites qui étaient pourtant très pollués, bah, il était possible de les restaurer, les dépolluer progressivement à l'aide de plantes qui avaient fini par s'adapter à cette pollution.
Ouais. Et comment vous avez procédé alors exactement pour trouver ces plantes et ensuite dépolluer ? Alors je crois que justement dans le Gard à Saint-Laurent-le-Minier, hein, c'est un ancien gisement minier. C'était une sorte de laboratoire géant pour vous, pour tester vos plantes ?
Oui, complètement. On a pu développer deux scénarios différents et complémentaires. Donc sur un premier site, on a réussi à identifier des plantes qui s'étaient adaptées toutes seules, qui avaient trouvé des stratégies de survie alors que le sol était extrêmement pollué. On a identifié jusqu'à 500 à 800 fois plus de zinc, de cadmium, de plomb que ce que tolèrent les normes européennes, hein, donc c'est énorme. Ouais. Mais pourtant, deux plantes uniques, qui sont assez extraordinaires, on parle parfois de folie végétale, avaient réussi à trouver des stratégies donc pour se développer malgré tout et à faire mieux que ça, c'est-à-dire à extraire les polluants du sol par leur système racinaire et à transférer ces polluants dans leurs feuilles pour les stocker, comme pour mieux s'en protéger. Voilà, donc c'est une découverte importante qui nous a donc intéressés. On a essayé de savoir comment ces plantes avaient trouvé donc ces solutions pour survivre. Mmh. Et quand on a compris un petit peu leur physiologie très particulière, on a réussi à les développer de façon intense sur des zones très polluées. Donc ça, ça a été la première étape.
Et est-ce qu'il peut y avoir des limites? Parce que, par exemple, sur des sites très contaminés de Fukushima, de Tchernobyl ou encore ou d'autres, est-ce que ça peut réussir à dépolluer complètement des sites comme ça, les simples plantes?
Oui, tout à fait. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir un chercheur ukrainien au laboratoire. Donc, on est bien informé sur ce qui se passe, par exemple, à Tchernobyl. Oui. Il y a un retour d'expérience relativement intéressant, puisque des plantes donc ont montré des signes d'adaptation à la présence de césium radioactif et l'accumulent un petit peu. Donc, en fait, même dans ces scénarios extrêmes, on peut voir une réponse de la nature qui est extrêmement encourageante. Alors, bien sûr, on ne peut pas la décréter. C'est par l'observation de l'adaptation des espèces naturelles qu'on peut trouver des solutions. C'est pas l'inverse.
Alors
Claude
Vaison,
forcer le destin et forcer ces plantes donc à réussir à survivre et à extraire cette pollution.
Alors j'ai deux questions pour vous. D'abord, quelles sont les plantes que vous avez trouvées? Est-ce que vous pouvez nous citer un nom ou deux? Et puis quel est le mécanisme tellement particulier qui fait qu'on peut les utiliser pour dépolluer des sites ultra chargés comme par exemple Saint-Laurent-le-Minier?
Oui, alors écoutez, sur le site de Saint-Laurent-le-Minier, on a trouvé deux plantes donc qui sont assez extraordinaires. La première est une brassicacée, un petit peu, enfin on la connaît, hein, par exemple le chou-fleur, brocoli appartiennent à cette famille.
Ah oui.
Ici, l'espèce particulière s'appelle le tabouret bleu, donc c'est une petite plante modeste, mais qui accumule très très fortement le zinc.
Mmh.
Et puis, ce qui a été extraordinaire et qui reste pour nous un scénario unique, puis il y en a une autre qui est une légumineuse. Je pense que tout le monde connaît bien les légumes secs, hein, les petits pois, les lentilles, les fèves. Bah ici, donc c'est une autre légumineuse très particulière qu'on appelle la vulnéraire, plus scientifiquement Tillys vulneraria, qui est assez extraordinaire parce qu'elle accumule plusieurs pourcents de zinc dans ses feuilles, ce qui est absolument faramineux. Mmh. Mais en plus, elle a un fonctionnement normal de légumineuse plus conventionnel, à savoir qu'elle vit en symbiose avec une bactérie du sol. Et grâce à cette symbiose, eh bien, elle permet de réenrichir le sol en engrais, en ammonium. Donc c'est extrêmement utile dans ces sols qui sont très appauvris en nutriments.
Ça veut dire qu'il y a des plantes qui, entre guillemets, aiment la pollution. Comment c'est possible? On a l'impression que c'est totalement paradoxal.
Alors, est-ce qu'on doit dire qu'elles aiment la pollution? Elles ont plutôt trouvé des solutions pour survivre. C'était
celle qui
pour une plante, la vie n'est pas simple. Hein. Elles ne peuvent pas fuir leur agresseur. Hein. Donc elles n'ont que deux choix. Hein. Soit elles arrivent à survivre, soit elles disparaissent. Donc là, c'est deux plantes qui ne sont pas de bonnes compétitrices, généralement, qui sont toujours débordées par les autres, ont ici trouvé l'arme absolue, c'est réussir à s'adapter et à vivre avec cette pollution.
Alors Claude Grison, parce que malheureusement le rendez-vous touche à sa fin, mais on peut en savoir plus en lisant l'article sur reporter.net, ce sont nos partenaires justement dans la Terre au Carré pour en savoir plus sur à la fois le mécanisme des plantes et puis les résultats que vous avez obtenus. Ça s'appelle Pour dépolluer sol et eau, donc une solution efficace et écolo, les plantes, donc reporter.net. On va parler nous dans un instant de la pollution liée aux marées noires. Est-ce que certaines plantes, Claude Grison, pourraient aider à nettoyer les côtes à votre avis ou pas?
Alors, des bactéries existent pour ça, elles sont bien identifiées. Les plantes, pourquoi pas? Puisque l'autre partie qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, c'est effectivement la dépollution de l'eau.
Oui.
Et on a réussi à trouver effectivement des plantes qui permettent d'aller chercher des polluants, qu'ils soient métalliques, mais aussi organiques, dans l'eau. Et donc là, c'est un projet très avancé au niveau du laboratoire, qui est maintenant à l'échelle pré-industrielle. Et où on va montrer dans les mois qui viennent qu'il est effectivement possible à grande échelle, sur site, en milieu naturel, de dépolluer une eau contaminée.
Bravo à vous en tout cas Claude Grison, ces recherches avec votre laboratoire qui vous ont valu entre autres un prix de l'innovation. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous en parler dans la Terre au Carré. Et donc dans un instant effectivement, notre invitée découverte sera la chercheuse Florence Poncet qui va nous dire ce qu'il reste de cette pollution de l'Erika, c'était il y a 20 ans tout juste.
I'm so caught up on you.
Teske Brothers à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
C'est le plus spectaculaire naufrage survenu près des côtes bretonnes depuis 20 ans. Le Erika, un pétrolier de 180 mètres de long, s'est littéralement coupé en deux. Il a fallu 3 heures pour secourir l'équipage indien, composé de 26 personnes. À présent, c'est le risque de pollution qui inquiète les autorités. Entre 1000 et 5000 tonnes de pétrole se sont déjà répandues en mer. Le pétrolier en contenait près de 30 000.
Voilà, c'était le 12 décembre 1999 dans le journal télévisé de France 2, 20 ans après. Quelles sont les conséquences de ce drame écologique? Bonjour Florence Poncet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Brésisel à Quimper. Vous êtes chercheuse au CEDRE, le Centre d'études, de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles de l'eau. Alors justement, 20 ans après, qu'est-ce qu'il reste des dizaines de milliers de fioul déversés donc par l'Erika sur les côtes françaises?
Alors 20 ans après, il ne reste quasiment rien, on peut dire rien. Le nettoyage a duré 2 ans, donc on peut dire qu'il s'est fait vraiment dans la finesse et dans le détail. Mais bien sûr, comme cette pollution a été projetée très haut sur les rochers, ben on n'est jamais à l'abri de retrouver quelques centimètres carrés de ce fioul figé qui aurait pu rester malgré tous les efforts de nettoyage et de repérage. Et notamment, ben j'en connais quelques traces que l'on avait nous-mêmes demandé à conserver pour pouvoir suivre sur le long terme l'évolution chimique de ce pétrole par notre laboratoire ou dans d'autres cas de la végétation, puisqu'il y avait un peu de pétrole qui restait au pied de cette végétation.
Ouais, il y a eu combien de milliers
de petites plaques de quelques dizaines de centimètres carrés dans quelques endroits du littoral.
Il y a eu combien de milliers de tonnes de fioul lourd justement en tout et pour tout sur les côtes françaises avec l'Erika?
Environ 20 000 de déversés.
Et donc, vous avez pu faire un suivi donc volontairement en maintenant en fait ces zones qui sont très très difficiles d'accès justement. Donc, la pollution existe encore, mais sur de toutes petites surfaces, pour faire un suivi à long terme.
Voilà, c'est ça. Au départ, le ministère de l'Environnement a lancé un suivi qui a duré 5 ans. Et nous avions une centaine de petites placettes. Notre suivi à nous concernait la végétation, notamment. Et parmi ces placettes, on en a gardé certaines pour lesquelles on avait demandé qu'elles ne soient pas nettoyées pour continuer à pouvoir les suivre. Mais c'en est 5 ou 6 réparties dans différents départements qui avaient été touchés. Donc on peut dire que maintenant, il reste quasiment pas de traces.
Vous parlez de végétation au niveau de la faune, hein, on se souvient des images des oiseaux, des mouettes engluées entre guillemets dans ce fioul. Est-ce que pareil pour les animaux, les choses ont repris leur cours?
Oui, c'est vrai que ce sont les oiseaux qui ont payé le plus lourd tribut en termes de mortalité. Mais maintenant, 20 ans après, les colonies, notamment, c'était des espèces qui nichaient pour la majorité de ceux qui ont été touchés au nord de l'Angleterre. Et il y a eu des suivis qui ont montré quand même, au bout d'un certain nombre d'années, ça s'est compensé et que les populations ont récupéré. Mais effectivement, c'est l'avifaune qui a payé un plus lourd tribut. S'agissant d'un fioul lourd, on a eu beaucoup moins d'impact sur toute la faune marine des sédiments de l'estran, ce qu'on appelle le benthos, comparé par exemple à une pollution comme la moucocadis qui avait engendré des mortalités très très fortes de toute cette faune des plages et des vasières.
Florence Poncet, vous dites donc globalement tout est rentré dans l'ordre 20 ans après donc la pollution de l'Erika, mais est-ce que la mer elle-même a une capacité pour nettoyer ce type de pollution ?
Bah, disons en partie sur les hydrocarbures, oui. Donc et notamment sur les hydrocarbures les plus volatiles, qui sont aussi les plus solubles, ce qui est qu'une fraction. Mais dans le cadre de l'Erika, on avait un fioul lourd, donc avec effectivement une bonne part qui n'est pas biodégradable. C'est pour ça que tout ce qui est arrivé sur les côtes, on a vraiment fait beaucoup d'efforts de nettoyage parce qu'il y en a une partie qui se transformerait en vieillissant, en durcissant. Par exemple dans les rochers, et en restant un peu comme des traces de bitume, comme tout le monde peut en voir un peu partout sur les côtes, ces petites traces de fioul qui ont vieilli, qui ont séché.
Oui,
qui n'ont plus d'impact, mais qui sont là.
Oui, donc ça c'est le cas de l'Erika, mais est-ce qu'on peut dire la même chose finalement pour tous les pétroliers ? Est-ce que certains d'entre eux laissent encore des traces, en revanche ?
Alors, c'est pas uniquement, il faut pas parler que des pétroliers, parce qu'en fait, ça peut être les cargos aussi, et les traces hors accident, c'est plutôt tout ce qui sort de ce qu'on appelle les slopes ou qui provient de ce qu'on appelle les caisses à huile. C'est-à-dire que les bateaux mettent là-dedans leurs résidus d'huile usagée, ce qui filtre du fioul qui leur sert à la propulsion. Mmh. Et normalement, ils doivent décharger ça dans les ports. Et il y en a certains qui ne déchargent pas ça dans les ports et donc qui engendrent des traces de pollution dans leur sillage. Donc c'est pour ça qu'il y a un renforcement de l'observation et de la répression, justement, de ces rejets qu'on appelle des rejets opérationnels.
L'épave de l'Erika est toujours au fond de l'eau, hein, je crois, à plus de 100 mètres. Est-ce qu'elle a été totalement nettoyée, cette épave, ou est-ce qu'il reste des traces de fioul et de pollution donc au fond de l'eau ?
Alors dans les épaves, on dit toujours qu'il reste des impompables qui se piègent dans les structures et donc on n'enlève que la majorité, mais l'épave de l'Erika fait l'objet aussi d'un rinçage avec du diester d'huile de colza, si je me souviens bien, donc un fluidifiant qui a permis de, sous l'eau, de rincer la cuve, de diluer ces hydrocarbures résiduels et de pomper beaucoup plus efficacement tous les résidus qu'il pouvait y avoir dans la cuve.
Ouais. Florence Poncet, d'ailleurs, régulièrement, on constate de petits arrivages de pétrole sur les côtes. Est-ce que d'abord ça provient toujours des épaves ? Et je crois que très récemment, avant Noël, vous avez retrouvé des oiseaux qui étaient souillés par du pétrole.
Alors effectivement, il y a eu des promeneurs qui ont signalé des oiseaux qui étaient légèrement mazoutés. En fait, il y a eu plusieurs observations, donc on a envoyé à notre laboratoire des plumes de ces oiseaux pour identifier la nature de l'hydrocarbure qui était sur les plumes. Et en fait, les chimistes de notre laboratoire ont reconnu assez vite quelque chose qui était proche de la signature du tanio. Et effectivement, la Marine nationale a lancé des investigations complémentaires autour de l'épave et il y a des petites fuites justement de ces impompables qui ont pu rester dans l'épave après le pompage du tanio.
Donc 40 ans plus tard, hein, c'était en 1980 le tanio, c'est ça hein ?
Ben effectivement, ça, c'est en fait, je crois que c'était fermé, que l'épave a été fermée, mais que certaines des vannes qui avaient été mises sur la coque pour purger, bien certaines ont été, se sont cassées. Donc ouais. En fait, il semblerait qu'il y ait des petites fuites et que du coup, c'est des choses qui sont sous investigation et en cours, mais pas pendant la saison hivernale, je pense, pour prendre des décisions.
Est-ce qu'il y a moins quand même aujourd'hui de marée noire dans le monde, est-ce que malgré tout ces catastrophes ont permis de faire des progrès ?
Oui, il y a moins de marée noire. Les statistiques réalisées montrent que les accidents déjà ont nettement diminué. Donc il y a depuis les années 70, il y a une diminution régulière des gros déversements, mais également des petits déversements. Donc ça, c'est manifeste. Donc il y a eu au fil des différentes marées noires, un certain nombre de réglementations qui se sont renforcées, à la fois sur la sécurité des navires, sur la sécurité du trafic, avec des systèmes différents par satellite, par ondes radio, de position, de suivi des navires. Donc beaucoup de renforcement de ces dispositifs qui font que finalement maintenant on a moins d'accidents dans le monde entier.
Oui, mais il y a quand même certains problèmes qui persiste, hein. Vous parliez du dégazage tout à l'heure, mais les incendies également sur les navires, par exemple.
Les incendies ou des accidents, il y a toujours des collisions. On a vu l'année dernière la collision qui s'est passée au large de la Corse, où un navire est rentré dans un autre navire qui était au mouillage. Donc ouais. Il y a toujours des hommes derrière le pilotage, et même s'il y a beaucoup de suivi et de systèmes d'alerte, il reste encore des accidents liés effectivement souvent à l'erreur humaine ou à des grosses tempêtes.
Merci en tout cas Florence Poncet pour ces précisions. Donc 20 ans après l'accident de l'Erika, c'était en décembre 99. Vous étiez en duplex des studios de France Bleu Brest-Izel à Quimper. Merci beaucoup. Et Camille, on se retrouve demain.
À demain Mathieu.
Bonne journée. Et Denis Delbecq était à la rédaction en chef. Et merci à Anna Massardier pour les réseaux sociaux.